12 problèmes favoris. L'art de la captation vu par un prix Nobel. Au vu de tout le contenu dont nous sommes entourés, il peut être difficile de décider ce qui mérite d'être sauvegardé. Pour aider les gens à faire le tri, je me sers d'un exercice que j'ai appelé « les 12 problèmes favoris » que m'a inspiré le lauréat du prix Nobel de physique, Richard Feynman. Feynman était connu pour ses goûts éclectiques. Enfant, il faisait déjà montre d'un talent certain pour l'ingénierie. Ainsi, un jour que ses parents étaient sortis faire des courses, il a construit un système d'alarme fonctionnel pour sa maison à partir de pièces détachées. À un moment donné de son existence haute en couleurs, il a vécu au Brésil, où il a enseigné la physique et appris à jouer suffisamment bien du bongo et de la conga pour faire partie de différents orchestres. Il a aussi beaucoup voyagé pour aller à la rencontre d'autres cultures. Outre ses découvertes révolutionnaires dans le domaine de la théorie physique et de la mécanique quantique, qui lui ont valu de recevoir le prix Nobel en 1965, il s'est également investi, durant son temps libre, dans la commission d'enquête sur le désastre de la navette spatiale Challenger, où il a joué un rôle clé. Enfin, il est l'auteur d'une demi-douzaine de livres. Comment une seule personne a-t-elle pu apporter sa contribution à tant de domaines différents? Comment a-t-il trouvé le temps de mener une vie si riche et si remplie, tout en devenant l'un des scientifiques les plus reconnus de sa génération? Feynman s'en est expliqué ainsi dans une interview retranscrite dans l'ouvrage « Indiscreet Thoughts » de Giancarlo Rota. Vous devez constamment garder à l'esprit une douzaine de vos questionnements favoris, même si, dans une large mesure, ils sont le plus souvent en sommeil. Chaque fois que vous prendrez connaissance d'une nouvelle astuce ou d'un nouveau résultat, testez-le sur chacun de vos 12 problèmes pour voir si cela vous aide. De temps à autre, cela collera et les gens diront « Comment a-t-il fait ? Oh, ce doit être un génie !» Chaque fois qu'il avait vent d'une nouvelle découverte scientifique, Feynman la confrontait donc à la douzaine de problématiques qu'il avait en veille pour voir si cela pouvait en éclairer une d'une manière ou d'une autre. Cette approche multidisciplinaire lui a permis d'établir des connexions entre des sujets en apparence totalement étrangers les uns aux autres, tout en étanchant sa curiosité. Ainsi comme le raconte James Gleick dans son livre « Le génial professeur Feynman », un simple incident dont le physicien a été témoin a suffi à l'inspirer de façon majeure. Il déjeunait à la cafétéria étudiante de l'université de Cornell quand un individu a lancé une assiette en l'air, une assiette avec le sceau de l'université imprimé sur le bord, et durant le court laps de temps où l'assiette a tournoyé en l'air, il a eu, selon ses propres mots, une épiphanie. Comme tout en tournoyant l'assiette vacillait, il s'est rendu compte, grâce au sceau imprimé sur son bord, que le mouvement rotatoire n'était pas exactement synchrone avec celui oscillatoire. À cet instant, il lui a semblé, ou était-ce juste son intuition de physicien, que les deux mouvements étaient liés. Après avoir posé les termes du problème sur une feuille de papier, Feynman a montré qu'il existait un ratio de 2 à 1 entre l'oscillation et la giration. Un rapport net et précis qui suggérait l'existence d'un principe sous-jacent plus profond en action. Quand un mentor et collègue physicien lui a demandé à quoi allait lui servir une telle découverte, Feynman lui a répondu « Peu importe, je me moque de savoir si c'est important ou pas. C'est drôle, non ?» Il donnait ainsi libre cours à son intuition et à sa curiosité. En réalité, cette découverte a eu son importance, puisque ses recherches sur les équations qui sous-tendent la rotation ont alimenté celles de ses travaux qui lui ont valu de recevoir le prix Nobel. L'approche de Feynman l'a encouragé à poursuivre ses intérêts, quels qu'ils soient. Il se posait des questions et était constamment à la recherche de réponses dans ses lectures, ses conversations et la vie courante. Quand il trouvait une réponse à l'une de ses questions et qu'il établissait ainsi une connexion, celle-ci apparaissait alors aux autres comme un éclair de génie. Demandez-vous quelles sont les questions qui vous ont toujours intéressé. Cela peut aussi bien concerner des sujets vastes et complexes, tels que « comment pourrait-on rendre la société plus juste et plus équitable ?» que des questions triviales, telles que « comment prendre l'habitude de faire du sport tous les jours ?» Cela peut également inclure des questions sur les liens que nous entretenons avec autrui. Comment me rapprocher de ceux qui me sont chers ? Ou encore sur la productivité. Comment passer plus de temps sur des tâches à haute valeur ajoutée ? Voici quelques exemples de problèmes récurrents que m'ont exposés mes étudiants. Comment moins vivre dans le passé et plus dans le présent ? Comment élaborer une stratégie d'investissement qui soit en phase avec mes objectifs et mes engagements à moyen et long terme ? Comment passer de la consommation abrutissante à la création consciente ? Comment faire pour me coucher tôt et ne plus regarder de séries après que mes enfants sont allés au lit ? Comment mon industrie peut-elle devenir plus durable tout en restant rentable ? Comment surmonter ma peur d'assumer davantage de responsabilités ? Comment mon école peut-elle davantage soutenir les étudiants avec des besoins particuliers ? Comment faire pour commencer à lire tous les livres que j'ai déjà avant d'en acheter d'autres ? Comment puis-je être plus rapide et me détendre en même temps ? Comment faire pour que le système de santé colle mieux aux besoins des gens ? Que puis-je faire pour manger plus sainement ? Comment puis-je prendre des décisions de manière plus assurée ? Vous remarquerez que certaines de ces questions sont abstraites et d'autres très concrètes. Certaines reflètent des désirs profonds, d'autres des envies plus spontanées. Beaucoup ont trait à la manière de mieux vivre sa vie, tandis que certaines concernent la sphère professionnelle. La clé de cet exercice est d'en faire des questionnements ouverts avec plusieurs réponses possibles qui font aussi appel à un état d'esprit d'étonnement et de curiosité envers le monde merveilleux qui nous entoure. Ce qui donne du pouvoir à vos questionnements favoris, c'est qu'ils tendent à rester assez constants dans le temps. La formulation exacte de chacun d'entre eux peut changer, mais même lorsque nous passons d'un projet, d'une relation, d'une carrière, d'un emploi à un autre, ils ont tendance à nous suivre au fil des ans. Je vous recommande de demander à votre famille ou à vos amis d'enfance ce qui vous obsédait lorsque vous étiez gosse. Il est très probable que ces mêmes questions stimulent toujours votre imagination à l'âge adulte. Ce qui signifie que tout contenu que vous recueilleriez à leur sujet continuera sans doute d'être pertinent dans un avenir lointain. Petit, j'avais une passion pour les Lego. Mes parents ont remarqué que je n'y jouais pas comme les autres enfants. Je passais mon temps à réorganiser les pièces. Je me rappelle avoir été totalement captivé par la question de savoir comment ordonner une masse chaotique de milliers de briques de toutes dimensions et formes. J'inventais de nouvelles façons de les classer, par couleur, par taille, par thème, obsédé par l'idée que si j'arrivais à trouver le bon système, je parviendrais enfin à créer mon chef-d'œuvre, un vaisseau spatial en Lego, semblable à ceux que je voyais dans les films de science-fiction que j'aimais par-dessus tout. Aujourd'hui encore, cette même question, comment la créativité peut-elle naître du chaos ? Continue de me passionner. La seule différence étant que je me soucie maintenant de la manière d'organiser des informations numériques et non plus des pièces de Lego. M'interroger inlassablement sur ce sujet m'a permis d'apprendre énormément de choses au fil des ans et aux différentes étapes de ma vie. Le but n'étant pas de trouver une réponse ferme et définitive à cette question, mais de m'en servir de boussole pour me guider dans l'acquisition de mon savoir. Prenez maintenant le temps de noter quelques-unes des questions qui vous animent. Pour ce faire, voici mes conseils. Demandez autour de vous ce qui vous obsédait quand vous étiez enfant. Il est plus que probable que les mêmes passions vous animent toujours. N'essayez pas d'en trouver exactement 12, mais listez-en quelques-unes au moins. Ne vous inquiétez pas si votre liste n'est pas parfaite, c'est un premier jet, inévitablement appelé à évoluer. Constituez cette liste sous forme de questions ouvertes avec plusieurs réponses possibles. En résumé, Notez tout ce qui peut vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez, et pour dresser cette liste, utilisez l'un des outils de captation que je vous indiquerai plus loin dans ce chapitre, ou piochez dans le guide disponible sur www.buildingsecondbrain.com/resources. Les critères de captation. Comment éviter de trop capter ou pas assez? Une fois que vous aurez identifié les types de questions auxquelles vous voulez que votre second cerveau réponde, il vous faudra choisir spécifiquement les informations qui vous seront les plus utiles. Imaginez que vous tombiez sur un billet de blog qui détaille la manière dont une experte en marketing que vous respectez conçoit et exécute ses campagnes. Vous êtes captivé. C'est exactement ce genre d'information que vous recherchiez. Enfin, le maître révèle ses secrets. Votre premier réflexe est de sauvegarder l'article dans son intégralité. Tout son contenu étant de grande valeur. Pourquoi ne pas tout conserver? Le problème, c'est qu'il est très long et fouillé. S'il vous faut 20 à 30 minutes pour le lire maintenant, à l'avenir, il ne vous restera plus qu'à recommencer puisque vous aurez oublié la plupart des détails. Épingler l'article pour plus tard n'est pas non plus la solution étant donné que vous ne vous souviendrez alors plus de son contenu. C'est là où la plupart des gens butent. Soit ils se précipitent sur le premier contenu intéressant, le lisent voracement puis en oublient sous peu les détails, soit ils ouvrent des dizaines d'onglets dans leur navigateur tout en se sentant coupables de ne pas avoir le temps de tout regarder. Heureusement, il existe un moyen de se sortir de cette situation. Pour commencer, il faut avoir conscience que, quel que soit le contenu considéré, sa valeur est inégalement distribuée. Seules certaines parties vous intéresseront vraiment et vous seront particulièrement utiles ou précieuses. Une fois que vous aurez compris cela, la solution est évidente. Ne gardez sous forme de notes que les passages les plus remarquables, les plus intéressants et les plus riches de sens. Ne sauvegardez pas des chapitres entiers, mais des morceaux choisis. Ne conservez pas des transcriptions intégrales d'entretiens, mais quelques citations. Ne cataloguez pas des sites web dans leur intégralité, mais faites des captures d'écran des pages qui vous intéressent le plus, tout comme les meilleurs conservateurs de musées le font avec les œuvres qui feront partie de leur collection. Choisissez avec soin vos contenus. Avec une application de prise de notes, vous pourrez toujours sauvegarder les liens vers le contenu intégral si vous avez besoin de passer vos sources en revue ou si vous souhaitez revoir certains détails à l'avenir. Le piège dans lequel les gens tombent le plus couramment est de sauvegarder pléthore d'informations. Si vous ne faites pas de tri, vous risquez de submerger votre moi futur. Arrivez là, votre second cerveau ne vous apportera pas plus de valeur ajoutée que si vous regardiez directement les fils d'information de vos réseaux sociaux. Voilà pourquoi il est si important d'adopter la perspective d'un conservateur de musée. Nous sommes les juges, les éditeurs et les interprètes des informations que nous choisissons d'accueillir dans nos vies. Réfléchir ainsi implique de prendre en main ce flux au lieu de le laisser nous submerger. Plus vous sélectionnerez avec rigueur vos actifs informationnels, moins votre futur moi perdra de temps et d'énergie à les organiser, à les distiller et à les formuler. Voici quatre critères que je vous suggère d'utiliser comme filtre pour vous aider à décider exactement quelle pépite de savoir capter. Critère de captation numéro 1. Est-ce inspirant? L'inspiration est l'une des expériences les plus rares et précieuses de la vie. Elle est le carburant qui alimente notre meilleur travail, mais malheureusement, elle ne peut se commander. Autant Google peut nous fournir la réponse à une question, autant il ne peut nous aider à éprouver un sentiment. Cependant, il existe un moyen d'invoquer l'inspiration. En accédant à un ensemble de citations, de photos, d'idées et d'histoires inspirantes. Chaque fois que vous aurez besoin de faire une pause, d'une pointe de motivation ou de vous ouvrir une nouvelle perspective, consultez vos notes et voyez ce qui titille votre imagination. Par exemple, je garde un dossier rempli de témoignages clients reçus au fil des ans. Chaque fois que je doute de l'importance ou de la qualité de ce que je fais, je n'ai qu'à l'ouvrir pour complètement changer de perspective. Critère de captation numéro 2. Est-ce utile ? Les menuisiers sont bien connus pour conserver tout un bric-à-brac dans un coin de leurs ateliers. Des clous et des joints, des chutes de planches de bois, des bouts de métal. Cela ne coûte rien à garder et c'est souvent en fouillant dedans que l'on finit par trouver une pièce cruciale pour un futur projet. Ainsi, parfois vous tomberez sur une information qui n'est pas forcément inspirante, une statistique, une référence, un résultat de recherche ou encore un schéma, mais dont vous vous dites qu'elle vous servira peut-être à l'avenir. Pour vous, c'est l'équivalent du bric-à-brac du menuisier. Par exemple, je garde un dossier plein de photos libres de droit, de graphiques et de dessins trouvés en ligne ou ailleurs et qui m'ont semblé intéressants. Je m'y plonge chaque fois que j'ai besoin d'une illustration pour une présentation ou une page web, ou d'inspiration pour une nouvelle idée. Critère de captation numéro 3. Est-ce personnel ? L'information personnelle, vos pensées, réflexions, souvenirs et mémentos, est l'un des types d'informations les plus précieux à conserver. Tout comme la pratique séculaire du journal intime ou de la chronique, la prise de notes peut nous servir à documenter notre vie et à mieux comprendre comment nous sommes devenus qui nous sommes. Personne d'autre que vous n'a accès à la sagesse que vous avez acquise au cours d'une vie de conversation, d'erreurs, de victoires et de leçons apprises. Personne d'autre que vous ne valorise les petits moments de vos journées comme vous le faites. Je sauvegarde ainsi souvent des captures d'écran de messages échangés avec ma famille et mes amis. Les instantanés de chaleur et d'humour qu'ils distillent sont précieux pour moi, car je ne peux pas toujours être avec eux en personne. Cela ne prend que quelques secondes et j'aime savoir que je garderai à jamais des souvenirs de mes conversations avec mes proches. Critère de captation numéro 4. Est-ce surprenant ? J'ai remarqué que les gens notent souvent des choses qui correspondent à des idées qu'ils connaissent et approuvent déjà ou qu'ils auraient pu deviner. En effet, les êtres humains ont naturellement tendance à chercher des informations qui confirment leurs croyances, un phénomène bien connu appelé biais de confirmation. Ce n'est pas le rôle d'un second cerveau. Le renommé théoricien de l'information Claude Shannon, dont les découvertes ont ouvert la voie à la technologie moderne, avait une définition de ce qu'est une information. Quelque chose qui vous surprend. Autrement, c'est qu'à un certain niveau, vous la connaissiez déjà. Dès lors, pourquoi la noter ? La surprise est un excellent indicateur. Elle nous permet de détecter les informations qui ne collent pas parfaitement avec notre compréhension d'un sujet donné et qui peuvent donc potentiellement changer notre façon de penser. Parfois, vous tombez ainsi sur une idée qui n'est ni inspirante, ni personnelle, ni à l'évidence utile, mais qui, d'une certaine manière, vous étonne. Vous ne savez peut-être pas dire pourquoi, mais elle contredit votre point de vue d'une façon qui met votre esprit en alerte et suscite votre attention. Ce sont ces idées que vous devriez capter. Votre second cerveau ne devrait pas juste être un autre moyen de confirmer vos croyances et connaissances. Les algorithmes dont nous sommes entourés, notamment via les réseaux sociaux, s'en chargent déjà en nous présentant une sélection de contenus qui ne font que renforcer nos opinions et connaissances établies. Notre capacité à capter des informations issues d'une multiplicité de sources nous mène sur une autre voie. En sauvegardant des idées qui peuvent se contredire et qui ne vont pas nécessairement dans le sens de nos croyances établies, nous pouvons nous entraîner à digérer des informations diverses au lieu de tirer des conclusions hâtives. Jouer avec les idées, en les tordant, en repoussant leurs limites et en les mixant nous permet de nous détacher de la manière dont elles nous ont été présentées à l'origine et d'en emprunter certains aspects ou éléments pour les utiliser dans notre propre travail. Si ce que vous captez ne vous fait pas changer d'avis, à quoi bon ?